Vous êtes sur RTL.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour Madame la Ministre de la Santé. Nous vous accueillons avec Michel Simest pour débattre du plan santé présenté hier par Emmanuel Macron. Et Michel, je me tourne tout d'abord vers vous. Qu'en pensez-vous et surtout, que faut-il en retenir?
Alors déjà, j'en pense que ce n'est pas une réformette, que c'est une vraie réforme du système de santé. Il y a beaucoup de choses à retenir. Alors le problème, c'est bien sûr à chaque fois de voir ce que concrètement ça va donner pour les patients, bien évidemment, mais aussi pour les médecins. La première chose que je retiens, c'est la fin du numerus clausus qui est un examen, vous savez, ça empêchait plein d'étudiants de passer en deuxième année de médecine, un concours absolument inhumain, stupide. On voit pas très bien pourquoi, pour être psychiatre, il faut être très fort en maths. Et là, vous allez faire disparaître ce concours, et également ce qu'on appelait l'internat avant, l'examen classant national.
Oui, absolument. On a envie, quelque part, que cette réforme corresponde aux vrais besoins de formation et besoins de profils nouveaux dans les études de médecine. En réalité, on sélectionnait des jeunes sur les maths, la physique. On voit bien que le métier de médecin nécessite plein de compétences différentes. Et le numerus clausus empêchait en fait le recrutement de jeunes venant de licences de sciences humaines et sociales, de licences d'ingénieurs, par exemple. On a aussi besoin d'ingénieurs médecins, de bioinformaticien. Et donc, tout cela va être possible grâce à la réforme. De la même façon, on fait disparaître l'examen classant final qui permettait d'entrer dans l'internat, parce que cet examen faisait que quand vous aviez zéro à l'examen, que vous étiez nul, en fait, vous pouviez avoir un poste d'interne. Nous ne voulons plus que des gens qui ont zéro à un examen puissent être médecins.
Quand on vous écoute tous les deux, ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Alors je vous pose la question, même si on ne va pas perdre de
parce
temps.
Que c'est
là. Alors ça s'est passé.
Parce que
et
c'est
puis
compliqué.
Il y avait un corporatisme. Et puis pendant des années, le numerus clausus a permis aux médecins de ne pas avoir de concurrence.
Agnès Buzyn.
Oui, il y a un corporatisme, il y a la volonté des facultés de médecine aussi de garder un nombre d'étudiants fixe parce qu'en fait, leur financement dépend du nombre d'étudiants. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'intérêts croisés qui faisaient qu'il fallait oser passer le cap. Et donc nous osons, nous travaillons avec Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à proposer des passerelles, des filières et des modes de sélection des médecins différents et plus diversifiés.
Il va y avoir aussi enfin un carnet de santé numérique. Enfin, c'était une arlésienne. Ça fait plusieurs décennies qu'on parle de ce carnet de santé.
Ah oui, moi ça fait bien 15 ans que j'en parle dans mes interviews.
Ouais, et voilà, et que ça n'a jamais vu le jour. Cet espace numérique patient. Il y a une phrase qui m'a un peu étonné, voire un peu choqué dans votre rapport. C'est que tout usager du système de santé disposera, sauf refus explicite de sa part, d'un espace de santé individuel. Pourquoi ne pas l'imposer? Pourquoi un patient peut-il refuser cet espace qui empêcherait le nomadisme médical? Vous savez très bien qu'il y a plein de gens qui vont voir 5 médecins de la même spécialité parce que
je vais
que
être opéré
sont...
alors. Si
voilà, qui vont être qui ce nomadisme médical coûte une fortune. Pourquoi ne pas imposer et pouvoir refuser?
Alors, il y a deux choses différentes, Monsieur Simest. En réalité, le dossier médical partagé qui va se déployer à partir du mois de novembre et qui sera l'outil de communication entre les médecins, entre eux, entre les professionnels de santé autres que médecins, autour du dossier du patient. Ce dossier-là va être pour tous les Français et normalement chacun d'entre nous devra avoir ce dossier médical partagé pour éviter le nomadisme. Par ailleurs, nous créons un espace numérique.
Pardonnez-moi, Agnès Buzyn, je vous interromps. Est-ce que ça veut dire qu'en rentrant dans une pharmacie, dans une maison de santé, on y reviendra dans quelques instants, ou à l'hôpital, ou tout simplement chez mon médecin généraliste, mon histoire de santé peut apparaître sur un écran?
Exactement, Monsieur Calvi, c'est ça concrètement. C'est
et ce que sera obligatoire.
Et là, ce sera obligatoire. Tout le monde aura un dossier médical partagé pour éviter ce nomadisme et cette perte d'informations.
Qui le remplit, Agnès Buzyn?
Alors, c'est un médecin au départ qui doit le remplir, ou ça peut être également une sage-femme à la naissance d'un enfant, par exemple. On peut imaginer que dès la naissance d'un enfant, le dossier médical soit ouvert.
Donc c'est l'espace numérique patient, c'est-à-dire ce qui lui permettra
qui
de gérer ses rendez-vous,
absolument.
Qui sera plus large. Un point important aussi, ce qu'on appelle le transfert de compétences, la délégation de compétences. On sait très bien que les médecins sont très réticents à laisser d'autres professions paramédicales prendre une tension ou faire des actes
qui, sauf quand ça les arrange, hein.
Qui le déchargeraient et c'est ce que vous voulez. Vous voulez libérer du temps pour que le médecin fasse son vrai boulot et non pas perdre du temps. On va prendre un exemple. Une personne âgée qui vient consulter peut mettre 10 minutes à se déshabiller parce qu'elle a, des difficultés. Là, c'est quelqu'un qui va aider une assistance et ça, c'est important.
Exactement. C'est vraiment une proposition pragmatique. Nous avons besoin de temps médical. Nous manquons de médecins, notamment de médecins généralistes. Nous savons qu'ils ne peuvent plus prendre de nouveaux patients dans beaucoup de zones, notamment rurales. Et donc, on essaye de les décharger de tout ce qui n'est pas un acte médical proprement à proprement parler, de façon à leur permettre de prendre plus de patients et de se concentrer sur leur véritable métier. Vous avez raison, parfois la consultation est très longue pour des détails et le médecin en réalité peut être en difficulté par rapport à une personne âgée qui met beaucoup de temps à se déshabiller, beaucoup de temps à prendre sa tension ou à se peser. Et ces actes-là pourraient être réalisés par des assistants médicaux que l'on va financer, 4000 postes au minimum dans les 4 ans qui viennent.
Ce n'est pas suffisant, Agnès Buzyn.
Ah si, si, enfin,
comment... 4 000 postes, vous vous rendez compte, il y a combien de... sont plus de 100 000 les médecins libéraux ?
220
000 médecins en tout en France. Mais là, c'est réservé pour l'instant aux médecins qui travaillent en cabinet groupé, en libéral. On commencera par les zones sous-dotées, donc on va être un peu discriminant de façon à réellement dégager du temps médical là où on en a le plus besoin.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est un chiffre qui a vocation à évoluer ?
Absolument, le président de la République l'a bien signifié dans son discours, il a dit au minimum dans les 4 ans, mais nous en financerons autant que nécessaire pour rendre du temps aux médecins et leur permettre de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée.
J'ai toujours pas compris comment on allait lutter contre les déserts médicaux étant donné qu'on va pas mettre un fusil dans le dos des médecins pour qu'ils aillent s'installer là où ils n'ont pas envie d'aller.
Parce que c'est une fausse bonne idée. Nous savons tous, tous ceux qui connaissent le milieu, que c'est une promesse démagogique. En fait, quand il y a trop peu d'une profession, on ne peut pas obliger les gens à aller s'installer là où ils ne veulent pas s'installer. Ils vont y échapper. Il y a déjà 25% des étudiants en médecine qui n'exerceront pas. Et on risque d'augmenter ce nombre avec l'obligation d'installation. Et donc, nous proposons tout un tas de mesures extrêmement concrètes d'organisation territoriale, où les médecins, mais également tous les professionnels de santé d'un territoire vont s'engager à prendre en charge une population et à permettre à chacun d'avoir un médecin traitant dans un territoire donné. Nous allons financer ces communautés de professionnels et faire en sorte que les professionnels se distribuent les tâches, car nous savons qu'un grand nombre de suivis de pathologies chroniques pourraient être réalisés par des infirmières, par exemple.
Mais au sein des maisons de santé ?
Non, pas seulement dans les maisons de santé.
Mais ils sont en train de réinventer le dispensaire. Si ça marche, ça n'a aucune importance.
Non, nous parlons de réseaux de professionnels. Donc, il y a des maisons de santé, des centres de santé où là, les gens sont regroupés physiquement, mais il y a aussi des zones où les gens n'ont pas forcément envie de se regrouper physiquement, mais vont travailler en réseau, quitte à ce qu'ils soient à 500 mètres d'écart, voire à 3 km d'écart, mais se répartir les tâches pour le suivi des pathologies chroniques notamment.
À Paris, par exemple, ou dans les grandes villes, vous êtes malade, vous faites un numéro de téléphone, vous appelez un médecin, vous n'avez pratiquement aucune chance d'avoir un rendez-vous dans la journée. Est-ce qu'avec votre réforme, ce sera terminé ?
Absolument, puisque nous allons financer ces communautés de professionnels avec en contrepartie un certain cahier des charges. Le cahier des charges, c'est que chaque Français est un médecin traitant, c'est que ces communautés s'engagent à des horaires d'ouverture des cabinets pour des rendez-vous non programmés, de façon à ce qu'on puisse à tout moment, entre 8h et 20h et le samedi, accéder à un médecin. Le président de la République a évoqué qu'on puisse élargir ces plages horaires jusqu'à 22h. Nous le négocierons dans la convention entre les médecins et la Sécurité sociale pour le financement de ces communautés. Et donc l'idée, c'est bien un cahier des charges, un financement d'une communauté de professionnels qui prennent en responsabilité un territoire ou une population.
Agnès Buzyn, pour dire les choses très simplement, ce plan pour l'instant est accueilli avec beaucoup de bienveillance et on a l'impression qu'on est en train de rentrer dans la modernité. On se demande aussi si d'une certaine façon vous n'êtes pas en train de nationaliser la médecine libérale. Alors est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça ?
Nationaliser, certainement pas. Par contre, rationaliser, certainement. Parce qu'aujourd'hui, la médecine libérale est évidemment financée par la Sécurité sociale et c'est bien. Mais nous avons, je souhaite diversifier, en fait, les modes de rémunération des professionnels libéraux, pas que des médecins, en les engageant sur des missions de service au public. Je ne vais pas dire de service public, mais de service au public. Aujourd'hui, nous savons que notre système de santé n'est plus au rendez-vous des besoins des Français. fait sur les territoires. Et donc je leur dis, je suis prête à mettre de l'argent sur la table, à financer vos communautés, à vous financer sur des missions qui rendent service à la population. Et les médecins libéraux aujourd'hui s'engagent avec nous sur cette responsabilité territoriale.
3,4 milliards d'investissements, où est-ce qu'on fait des économies, à moins qu'on dérembourse ?
Alors non, on dérembourse rien, on fait des économies sur le prix des médicaments par exemple, donc ça c'est déjà...
C'est-à-dire, Agnès Buzyn, concrètement ?
Concrètement, il y aura cette année 1 milliard d'euros d'économies dans les négociations de prix avec l'industrie pharmaceutique.
Je vais me fâcher avec tous nos confrères, Agnès Buzyn, puisque vous êtes médecin aussi. On sait que les médecins incompétents coûtent très cher à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. Que comptez-vous faire pour la fameuse formation médicale continue et pour vérifier qu'un médecin connaît son métier ?
Alors, vous le savez, nous nous engageons vers une recertification. Donc pour l'instant, j'attends un rapport qui va me proposer des pistes pour recertifier régulièrement les médecins et vérifier que leur corpus de connaissances, que leurs connaissances sont à l'heure du progrès médical, évidemment. Mais surtout, dans le plan que j'ai proposé qu'il y ait des financements à la qualité. Je veux que les professionnels entre eux définissent ce qu'est un bon parcours de soins d'un patient diabétique, définissent ses besoins, et qu'on finance les professionnels s'ils suivent ce parcours et s'ils s'engagent à respecter les recommandations de bonne pratique.
Mais ça veut dire qu'on va les noter, ces médecins, qui les certifie et avec quels moyens ?
Alors, aujourd'hui, nous avons moyen de recueillir des indicateurs. La Sécurité sociale peut recueillir des indicateurs et dire oui, ce patient a suivi un bon parcours et donc le financement de ce parcours peut avoir lieu. Et puis, je vais aussi...
Pardonnez-moi, c'est quoi les indicateurs ? Le malade est soigné, pour moi, ça c'est un bon indicateur. Qui l'évalue et comment et où ?
Donc, par exemple, nous allons recueillir des indicateurs de résultats chez les patients. Ce sont des choses qui se font dans les autres pays, donc nous allons demander au patient comment il a ressenti son suivi médical. Donc ça, c'est simplement du ressenti, mais également quels sont les résultats de l'acte qu'il a eu, par exemple un acte chirurgical, une prothèse de genou, en combien de temps il a remarché. Et donc tout cela va permettre de mieux qualifier la bonne pratique et vérifier en fait que la qualité des soins est au rendez-vous. Et je souhaite financer les médecins beaucoup plus sur la qualité. Quand je dis les médecins, c'est tous les professionnels en réalité, beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité des actes, alors qu'aujourd'hui nous ne finançons les actes qu'à la quantité.
Ce qui explique que dans certains hôpitaux de proximité, certains services vont être réorientés parce qu'il n'y a pas assez d'interventions, par exemple, dans un domaine particulier et que ça diminue les compétences.
Oui, aujourd'hui, nous savons très bien que dans des hôpitaux où il n'y a pas suffisamment d'activité et où les médecins qui sont recrutés ne sont pas toujours présents ou ont des compétences insuffisantes, la qualité des soins n'est pas au rendez-vous. Donc j'ai décidé de proposer trois types d'hôpitaux, des hôpitaux de proximité qui vont être labellisés sur des missions de proximité, le soin aux personnes âgées, la médecine polyvalente, la rééducation par exemple. Et donc ça se fera en proximité, en lien avec les médecins libéraux du secteur. Et donc ça, les Français en ont besoin. Nous ne fermons aucun hôpital, mais nous leur donnons des missions réellement de proximité. Il y aura ensuite des hôpitaux de recours qui feront de la médecine plus spécialisée, et puis des hôpitaux de très haute technicité, par exemple les CHU. Et je veux que les spécialistes des hôpitaux de recours qui font de la spécialité aillent faire des consultations dans les hôpitaux de proximité, des consultations de chirurgie, d'ophtalmo, pour se rapprocher en fait des besoins de la population et lui éviter des transports.
Une dernière question, Agnès Buzyn. Ce matin, dans le quotidien La Croix, l'Ordre des médecins annonce ne pas être opposé à une extension de la PMA. J'imagine que vous vous réjouissez de cette prise de position. Est-ce que vous prévoyez toujours de présenter le projet de loi avant la fin de l'année ?
Absolument, nous avons prévu de présenter le projet de loi de bioéthique avant la fin de l'année. Nous attendons aujourd'hui pour le 25 septembre l'avis du Conseil consultatif national d'éthique qui donnera un avis général sur la plupart des mesures, parce que ces lois de bioéthique, c'est loin d'être uniquement la PMA, c'est une centaine de mesures. C'est l'anonymat du don de spermatozoïdes ou d'ovules, c'est la gratuité du don, c'est la conservation par exemple des ovocytes pour les femmes. Il y a énormément de mesures sur la génétique également, et donc ce n'est pas simplement une loi sur la PMA, c'est une loi qui vise à vérifier que les progrès progrès médicaux sont compris par la société, qu'ils répondent aux besoins et que nous ne dérivons pas du fait du progrès médical.
Cet avis de l'Ordre des médecins, pour vous, est une bonne nouvelle ?
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Agnès Buzyn, pour nous donner tous ces éclaircissements concernant nos futurs parcours de santé. Il va falloir maintenant que je certifie Michel Simès.
Faites très attention. Je vais passer des tests avec vous tous les matins.
Comptez sur moi. Merci Madame la Ministre, merci Michel.